Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. Et nous continuons notre série sur les rencontres avec Jésus. Et nous arrivons, nous allons voir Luc chapitre 5, la rencontre avec Simon-Pierre. Luc chapitre 5, nous allons lire les versets 1 à 11. Luc chapitre 5, donc commençons au premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est la cinquième rencontre dans notre série. Nous avons déjà vu la rencontre avec Nicodème, un homme religieux, un homme politique, avec un certain pouvoir, qui pensait pouvoir apporter quelque chose à Jésus. Et Jésus lui montre en fait qu'il ne sait absolument rien et que la chose la plus importante pour un être humain, c'est de passer par la nouvelle naissance pour voir le royaume de Dieu. Nous avons ensuite vu la femme samaritaine rejetée à cause de son style de vie, rejetée aussi par le fait qu'elle était samaritaine, une femme aussi ignorante de la vérité. Et Jésus s'adresse à elle, « Si seulement tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de te donner à boire. » Et il se révèle à elle. Et il se décrit plus tard comme étant la lumière qui vient éclairer. Nous avons vu ensuite la rencontre avec le paralytique près de la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans, incapable de se bouger, incapable de faire quoi que ce soit et qui se tourne vers les croyances populaires superstitieuses et qu'il vient vers cette piscine espérant un jour pouvoir y entrer. Et Jésus vient et le guérit. Et là, nous avons vu que, à partir de ce moment-là, il y a déjà de l'opposition de la part des religieux qui ne s'émerveillent pas devant le miracle. Un homme, 38 ans, paralytique pendant 38 ans, ces religieux ne sont pas émerveillés par ce miracle. Ils sont plutôt là à vouloir imposer leur loi, et il s'adresse à cet homme en disant, « Mais tu n'as pas le droit de porter ton lit, c'est le sabbat. » Alors que ça fait 38 ans qu'il ne marchait pas. Et Jésus va les condamner. Et ensuite, la semaine dernière, nous avons vu la femme prise en adultère, un complot qui a été mis en place pour essayer d'éprouver le Seigneur Jésus, mais il va condamner ces religieux qui prétendent défendre la foi, qui avaient soi-disant pris cette femme en flagrant délit. Et comme nous avons dit, mais si ces personnes voulaient vraiment défendre la loi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas empêché cela? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas jugé cette affaire en privé? Pourquoi est-ce que l'exposer ainsi devant tout le monde? Et c'était pour mettre de la pression sur le Seigneur Jésus. Et en une seule phrase, il détruit leur complot. Personne ne va jeter la première pierre. Et Jésus lui-même, le seul qui n'a jamais commis de péché, le seul qui n'a pas péché, le seul qui aurait pu jeter la pierre, lui ne le fait pas. Parce qu'il est venu non pas pour condamner, mais pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ces premières rencontres, nous avons souligné, mettent l'accent sur ce que Jean résume au début de son évangile, que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ces premières rencontres mettent l'accent sur la grâce, premier mot pour les enfants. Ils mettent l'accent sur la grâce, que tout cela est le salut et tout ce que Jésus donne ne dépend pas de nos mérites, ne dépend pas de nous, mais est par pure grâce. La rencontre ici avec Simon-Pierre aborde un autre aspect de la vie chrétienne. Si tout est par grâce, si tout est par le moyen de la foi en Jésus-Christ, il y a aussi une implication, c'est qu'il y a une coupure avec le passé. Il y a un nouveau départ. Nous avons vu avec les enfants il y a quelque temps la définition de conversion. C'est on se détourne de quelque chose ou de quelqu'un, mais c'est pour se tourner vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose. Et c'est la leçon que Pierre devait apprendre ici, dans cette rencontre. Premièrement, tout d'abord, l'homme Simon-Pierre. Ce n'est pas la première fois que Simon rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, dans l'évangile selon Jean chapitre 1, versets 36 et 37, le frère de Simon-Pierre, André, a entendu les paroles de Jean-Baptiste et il voit Jésus, Jean-Baptiste voit Jésus passer et il s'exclame: Voici l'agneau de Dieu. Et c'est André et celui qui est avec lui, j'ai oublié son prénom, c'est Jean. Donc les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Et ensuite, André, nous lisons verset 40, toujours dans Jean chapitre 1, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, qui avait suivi Jésus, et ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et puis, quelques jours plus tard, Jésus, nous avons vu cette histoire, quand il va à Cana et qu'il va accomplir le premier miracle aux noces de Cana. Et il est tout à fait logique de penser que Jésus, le texte nous dit, était là avec ses disciples, que Simon-Pierre était présent. Et puis en Luc chapitre 4, avant cette rencontre au bord du lac de Génézareth, Jésus va entrer dans la maison de Simon-Pierre et il va guérir sa belle-mère qui était malade. Et la maladie, ce n'est pas une simple fièvre. Elle était incapable de faire quoi que ce soit. Elle était clouée au lit. Et donc, Simon connaissait, deuxième mot pour les enfants, il connaissait le Seigneur Jésus. Il l'avait déjà rencontré, il faisait partie de ce cercle d'amis, mais il n'avait pas encore renoncé à sa vie passée. Et donc, nous le trouvons ici au début du chapitre 5, qui est toujours là à vivre sa vie de pêcheur. Il est au bord du lac et il continue sa vie. Ses rencontres avec le Seigneur Jésus ne l'ont pas transformé, ne l'ont pas encore bouleversé. Comme beaucoup aujourd'hui qui ont entendu parler de Jésus, ils savent quelque chose de lui, ils savent qu'il est important, mais ils ne l'ont pas vraiment rencontré. Voilà Simon-Pierre. Deuxièmement, la rencontre avec le Seigneur Jésus. Jésus, nous l'avons lu dans ces versets, est au bord du lac de Génézareth. Il enseigne, une grande foule est là. Une foule qui est désireuse d'entendre la parole de Dieu. Et elle sait, elle se rend compte que ce Jésus-là n'est pas n'importe qui. Qu'il parle de la part de Dieu. Et là, Jésus voit deux barques vides et il monte dans la barque. Troisième mot sur la feuille. Il monte dans la barque qui appartient à Simon-Pierre. Il demande de s'éloigner et il s'assit pour enseigner la foule. Simon-Pierre avait sans doute déjà entendu le message que Jésus annonçait. Mais à quoi est-ce qu'il pensait pendant qu'il était dans la barque et que Jésus enseignait? Est-ce qu'il pensait qu'il avait passé toute une nuit blanche et qu'il n'avait rien pêché? On ne sait pas. Mais à la fin, lorsque Jésus a fini d'enseigner la foule, Jésus va s'adresser à Pierre au verset 4 et il va s'adresser à Pierre d'une manière plutôt extraordinaire. Quatrième mot. Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Voilà un enseignant, un prédicateur, un homme qui parcourt le pays et qui enseigne aux foules, qui autrefois, plus jeune, était charpentier, puisque Joseph avait été charpentier, que Jésus a été, il est parfois aussi décrit comme étant le charpentier. Voilà cet homme qui s'adresse à Simon-Pierre, un pêcheur professionnel, patron de sa barque, patron de sa propre entreprise, et qui lui donne cet ordre. Assez extraordinaire. Et la réponse de Pierre, au début du verset 5, ne nous surprend pas réellement. Cinquième mot pour les enfants. Pierre répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et c'est comme si on pouvait lire derrière la pensée de Pierre. Et comme beaucoup de gens se disent aujourd'hui, ils se disent « Ah, mais voilà, un prédicateur, il connaît un peu la Bible, et il pense tout savoir. Hein, ils nous disent ce qu'on doit faire. Et si on n'a pas attrapé de poisson la nuit, on sait, nous qui avons l'expérience, que ce n'est pas en plein jour qu'on va attraper du poisson dans le même lieu. » Mais Simon-Pierre ne s'arrête pas là. Et il poursuit la fin du verset 5. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Est-ce que, quand il s'adresse à lui, il s'adresse à Jésus en parlant de maître, est-ce que c'était par respect pour ce jeune enseignant? Est-ce que c'était parce que Jésus était entré chez lui pour guérir sa belle-mère? Mais voilà, Pierre s'adresse à Jésus et lui dit, mais sur ta parole, il obéit. Sixième mot. Et il est époustouflé par la réponse ou par le résultat. Versets 6 et 7. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Et Jésus veut montrer à Pierre ici que sa parole est digne de confiance. C'est une leçon de foi, parce que c'est une leçon au sujet du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce miracle que Jésus fait révèle sa nature divine. Il a le pouvoir sur la création. C'est lui qui amène ce banc de poissons à cet endroit-là. Ce miracle révèle sa puissance. Simon-Pierre le reconnaît lui-même dans sa réponse quand il dit au verset 8, quand nous lisons au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'est une leçon de foi. Septième mot pour les enfants. C'est une leçon que nous aussi, nous devons sans cesse apprendre, que la parole de Jésus, la parole de Dieu est digne de confiance. Et quand elle nous appelle à certaines responsabilités, que ce soit dans la vie de famille, dans la vie de couple, que ce soit au travail, que ce soit dans ce monde, nous sommes appelés à obéir à cette parole. Et Jésus montre à Simon ici pourquoi cela vaut la peine de croire en lui et en sa parole. Simon est réticent au début. Il s'appuie sur son expérience, mais attends, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole. Et l'histoire est pleine et remplie de personnes qui ont exercé cette foi en Dieu. Vous pensez à Noé, par exemple, qui a construit une arche à un endroit où il n'y avait pas de mer. Et pendant des années, il a annoncé le message de Dieu, de sa justice et de son salut, de sa grâce, sans réponse. Mais, nous lisons en Genèse 6, verset 22, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Selon ta parole, Abraham, qui a quitté le lieu de son enfance sans savoir où il allait, il laisse tous ses amis, il laisse toutes ses connaissances, il part avec Sarai, son épouse, vers un pays qu'il ne connaît pas, il vit sous les tentes, comme Isaac, comme Jacob. Ils ont obéi. Moïse lève son bâton contre Pharaon, qui refuse de laisser partir le peuple d'Israël. Mais ils ont obéi selon ta parole. Croire Jésus, c'est suivre tous ces exemples que nous avons déjà dans la parole de Dieu et tout au long de l'histoire de l'Église. Nous aussi, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Pierre et de dire, selon ta parole, je ferai, j'obéirai. Jésus montre qu'il est le guide et qu'il est celui qu'il peut pourvoir à nos besoins. Huitième mot pour les enfants. Et il le fait de manière personnelle. Il parle ici à Pierre, ou il s'adresse à Pierre ici, dans un langage que Pierre peut comprendre. Il ne va pas s'adresser à Pierre en lui parlant d'agriculture, mais il s'adresse à Pierre dans le monde de la pêche. Et c'est la même chose pour nous. Dieu n'est pas pris au dépourvu, Jésus lui-même n'est pas pris au dépourvu par nos différences, mais il s'adresse à nous, chacun là où nous sommes, dans un langage que nous pouvons comprendre. Et ce miracle a ouvert les yeux de Simon-Pierre à une réalité bien plus grande. Parce que quand Simon voit l'énormité ou la grande quantité de poissons que Jésus a amenés et qui sont maintenant dans les filets, Pierre n'est pas concerné par le danger physique. Il n'est pas concerné par le fait que sa barque l'autre barque sont sur le point de sombrer. Non, il voit le péril de son âme. Et il s'adresse à Jésus en disant: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Simon-Pierre ici réalise qu'il se tient dans la présence de Dieu. Neuvième mot. Il est conscient de son péché. Il est conscient qu'il ne mérite pas de se tenir dans la présence de Jésus lui-même. Et il y a bien d'autres expériences, bien d'autres passages d'expériences qui nous sont relatés. Je pense en particulier à Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, l'expérience du prophète qui voit cette vision dans les premiers versets, cette vision du Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Quelle est la réaction? Quelle est la réaction du prophète? Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il prend une pierre de l'autel sur lequel est sacrifié, est offert le sacrifice, bien sûr une image du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il l'applique à Ésaïe. Mais Pierre connaît cette même expérience. Il reconnaît ici que celui qui se tient devant lui n'est autre que Dieu. Cela le met dans une situation inconfortable. Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis pécheur. Éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. C'est tellement différent de ce qu'on entend aujourd'hui dans bien des endroits. On présente Jésus comme un pote, un ami, un copain. Alors bien sûr, Jésus est l'ami des pécheurs. Il s'est révélé en tant que tel, mais il est aussi Dieu incarné. Et la vie chrétienne n'est pas caractérisée par un amusement ou un enthousiasme charnel, mais elle est fondée sur une crainte de Dieu et sur une horreur du péché. Dixième mot pour les enfants, une horreur du péché. Cela n'attire pas les gens. Cela n'a pas attiré Simon-Pierre non plus. Simon dit à Jésus: Retire-toi de moi. Ce n'est pas ici l'expression d'une communion spirituelle intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand Pierre s'adresse et dit: Retire-toi de moi. Mais c'est une condition qui précède cette communion. Ésaïe 57, verset 15, nous rapporte les paroles de l'Éternel qui dit: J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Pierre devait comprendre, devait réaliser cela pour véritablement rencontrer le Seigneur Jésus. Et nous aussi. Mais Pierre le rencontre. Et il réalise qu'il est en face de Dieu lui-même. Troisième mot, troisième point, les paroles, ou la parole plutôt, de Jésus. Au verset 11, Jésus, au milieu du verset, Jésus lui dit, dites à Simon, ne crains point. Ne crains point. Luc utilise cette même expression au chapitre 1er et au verset 30, quand l'ange s'adresse à Marie. Luc 1, verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu répond à tout cœur qui est frappé par la réalité du péché et par la sainteté de Dieu. Il se révèle à ces cœurs contrits par sa grâce en leur disant, ne crains point. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, pour ceux que Jésus appelle dans sa grâce, il n'y a plus de condamnation. Jésus dira lui-même en Jean 10 et verset 28 qu'il est venu pour donner la vie. Jésus leur dit donc, quand vous aurez... Pardon. Mauvais paragraphe. Jean 10, verset 28. Jésus leur donne je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que moi. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si l'on s'approche de Dieu dans la crainte, conscient de nos péchés, rendu conscient de nos péchés, par l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Nous nous tenons devant lui en réalisant la sainteté et en réalisant notre état de pécheur. Si nous nous approchons de lui en regardant à lui, nous entendrons ses paroles. Ne crains point. Ne crains point, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Le quatrième point, c'est la conséquence de cette rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est l'appel à le suivre, douzième mot. Ne crains point, dit Jésus à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il lui donne une vie nouvelle et il l'appelle à le suivre. Et cette grâce enlève tous les obstacles. Le péché n'est plus une barrière parce que Jésus s'en est chargé. Il a pris nos péchés sur lui à la croix. Notre faiblesse n'est plus une barrière pour le suivre parce que Dieu, dans sa grâce, nous donne la force de le suivre. Cette force qui est en Christ. Pierre, si l'on veut en parler sur le plan humain, n'a pas été un super pêcheur de poissons. Il est revenu bredouille. Mais Jésus l'appelle à être un pêcheur d'hommes. Pourquoi? Ou comment? Par la promesse, treizième mot, et par la puissance de Jésus-Christ, cette puissance qu'il a démontrée au travers de ce miracle. Et c'est sur cette même base, la promesse qu'il fait et la force qu'il nous donne, que nous aussi nous avançons et nous suivons le Seigneur. Jésus appelle Simon-Pierre à son service. Désormais, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Il ne donne pas simplement cet ordre à Pierre en disant va et commence à pêcher des hommes. Non, l'appel qu'il fait à l'apôtre Pierre, qu'il fait, pardon, à Pierre, à Simon Pierre, va avec cette promesse transformatrice du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras pêcheur d'hommes. Marc 1 le dira différemment en verset, Marc 1, verset 17. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Ce que Jésus demande à ses disciples, il le produit en eux. Quatorzième mot, il fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Il les transforme pour qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Mais il fait cette promesse, tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes. Et Simon-Pierre et André et les compagnons ne sont pas les seuls que Jésus appelle à lui. L'appel est lancé à tous ceux qui entendent la voix du Seigneur, d'entrer dans cette grande mission d'aller et de faire des nations des disciples. Mais la puissance ne vient pas de nous. Nous en sommes bien incapables. Elle vient de Jésus-Christ lui-même qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Quand on relit le passage de Matthieu 28, il donne cette mission au verset 19, mais au verset 20, il nous rappelle « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Pierre réalise la grandeur de la tâche et il ne quitte pas le Seigneur Jésus, il le suit. Le cinquième point, la conclusion. Tout d'abord, comme j'ai dit, il y a le désormais, quinzième mot. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans la vie de Simon-Pierre, tout comme il y a un changement dans la vie de celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un avant la rencontre et il y a un désormais. Paul utilisera l'expression « mais maintenant ». Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'est simplement amélioré. Non, il est transformé. Transformé par cette rencontre avec le Seigneur. Bien sûr, cela peut se manifester dans la vie extérieure de manière progressive, mais il y a une véritable rencontre qui va produire ce résultat. Pierre va changer. Même si on sait que plus tard, il aura encore du mal à tout saisir, mais un miracle va se passer dans sa vie. Lui qui était pêcheur de poissons va devenir pêcheur d'hommes. Et la deuxième chose, c'est que nous voyons le résultat de cet appel efficace. Quand Jésus appelle quelqu'un à lui, la personne ne peut faire autre chose que de tout quitter. 16e mot pour les enfants. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ils quittent leur vie passée pour suivre Jésus, devenir des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que veut dire suivre Jésus pour moi, dans ma vie? Ça peut être différentes choses, mais celui qui s'approche de Jésus comme un pêcheur qui demande sa grâce, qui implore sa grâce, qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il se tient devant Dieu. Celui qui s'approche de Jésus-Christ ne sera jamais rejeté. Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et on entend les paroles « ne crains point ». Nous entendons cet appel à le suivre, à devenir ses disciples. Cela veut dire « mourir », 17e mot sur la feuille. Mourir à notre ancienne vie, mourir d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire laisser les choses qui m'ont intéressé jusqu'à maintenant, les laisser derrière moi, L'amour du péché, l'amour du monde, l'amour de toutes ces choses que ceux autour de moi aiment. C'est renoncer à certaines choses, peut-être à certaines relations, certains objectifs que l'on s'était fixés, certaines habitudes. Comme Pierre, de tout laisser et de quitter notre occupation ou ce qui nous occupait, ce qui prenait notre temps pour suivre le Seigneur. Mais celui qui le fait, celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ, ne le regrette pas. Il n'est pas perdant. 18e mot sur la feuille. Il n'est pas perdant. Nos filets ne seront pas vides là où Christ nous appelle. Nous connaîtrons une abondance de vie que lui seul peut donner. Jésus lui-même a dit en Luc 9, verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Nous connaîtrons cette abondance de vie que Dieu, que Christ donne à tous ceux qui le suivent et qui regardent à lui. Une abondance que le monde ne connaît pas. Que Dieu nous rende disposés à entendre sa voix, à le suivre, à suivre cet appel du Seigneur Jésus-Christ, à mettre notre confiance en lui, comme Pierre l'a fait, à mettre notre confiance en lui, sachant qu'il promet et qu'il est capable de nous donner bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il pourvoit à nos besoins et il a promis d'être avec nous. Que Dieu nous aide à être, qu'il fasse de nous ses disciples qui nous appuyons non pas sur notre force, mais sur sa force, sur sa promesse, et que nous avancions dans cette vie en comptant sur lui et sur lui seul. Que Dieu nous aide à saisir cela et à le vivre pour sa gloire. Amen.